Et alors que la sexualité tient une très grande place dans notre vie, la question justement de la sexualité chez les seniors reste un sujet tabou dans nos sociétés. Pourtant, la vieillesse ne signifie pas la fin de la recherche du plaisir. La sexualité ne s'arrête pas avec l'âge et tous les humains restent des êtres désirants jusqu'à la fin de leur vie. C'est ce que nous allons voir avec nos invités, dossier donc de la tête au carré, avec mes invités, les sexologues Gérard Ribes et Philippe Bruneau qui s'intéressent à la sexualité et au vieillissement. Et j'attendais maintenant vos messages, vos questions, vos témoignages, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui de la friture sur la ligne du clonage des mammifères.
Oui Mathieu, et ce n'est pas nouveau. Depuis les tout premiers clonages il y a 20 ans, les chercheurs savent que la technique ne marche pas bien. Maintenant, ils commencent à comprendre pourquoi. Olivier Sarda, chercheur à l'INRA, nous explique pourquoi dans un instant.
Et puis en fin d'émission, je vous offrirai la boîte de jeu de la tête au carré avec une nouvelle question. Stéphanie Texier est aux commandes de cette émission préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La sexualité et le vieillissement, c'est donc le dossier cet après-midi de l'émission avec mes invités, les sexologues Gérard Ribes et Philippe Bruneau. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Gérard Ribes, la sexualité des seniors, sujet rarement, très rarement abordé. Pourquoi ce tabou dans nos sociétés, selon vous ?
Déjà, le fait que France Inter le propose est une évolution absolument énorme. Parce que je pense qu'il y a quelques années, ça n'aurait pas été possible. Donc, ce qui veut dire que les choses sont en train de changer. Et puis, c'est toute la question des représentations. En quoi on considère que les gens âgés peuvent être encore des gens désirants, comme vous l'avez évoqué, et des gens désirables aussi, parce que la question de la désirabilité est aussi une question extrêmement importante.
Et justement, Philippe Bruneau, le désir, ça ne s'éteint pas avec l'âge.
Ça ne s'éteint pas, et c'est exactement ce que vient de dire Gérard Ribes. On est sur beaucoup d'idées fausses, d'une évolution qui est considérable, mais extrêmement récente, qui va très vite, avec des idées fausses comme le jeunisme et le vieillisme. Le vieillisme étant la façon de considérer les gens comme vieux, ouais. Alors qu'en définitive, peut-être que dans leur tête, ils ne le sont pas du tout.
Allez, on se retrouve dans un instant. C'est un très beau sujet, on va le découvrir ensemble et avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent, bien sûr, sur le site de l'émission. Et à la une de la science aujourd'hui, le clonage chez les bovins. Les études montrent qu'il aboutit à la naissance d'un veau en bonne santé dans seulement 10% des cas. La vache est pourtant un des animaux pour lequel cette technique de reproduction interdite en France est la plus utilisée, la mieux maîtrisée, surtout aux États-Unis. Et en étudiant pour la première fois des embryons clonés en même temps que l'utérus de leur mère, eh bien des chercheurs français et américains percent petit à petit les limites justement du clonage. Une étude parue cette semaine et dont vous êtes un des auteurs, Olivier Sandra, nous en dit plus. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRA, dans l'unité biologie du développement et reproduction à Jouy, en Josas. Alors, on parle de clonage somatique, hein, Olivier Sandra. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, en fait, il s'agit d'une technique qui permet d'obtenir un individu en utilisant l'ovocyte d'une femelle, dont on a enlevé la partie du noyau, et on la remplace par le noyau d'une cellule qu'on dit différenciée, c'est-à-dire qui est déjà impliquée dans un tissu.
Alors, qu'est-ce qui cloche avec le clonage pour que, depuis 20 ans, on n'ait pas amélioré les taux de réussite de la technique ?
Ben c'est quand même une technologie qui est assez technique à mettre en place, qui n'est pas évidente. Le deuxième point, c'est que vous passez quand même par une cellule qui était déjà impliquée dans un fonctionnement tissulaire. Vous lui demandez de revenir en arrière et ensuite de redonner un embryon, ce qu'on appelle la reprogrammation. Et ça, c'est un processus qui est effectivement assez compliqué.
Alors, qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau sur ce processus-là, dans la publication dont on parle précisément ?
Alors, dans le processus et par rapport à la publication que vous mentionnez, c'était surtout le fait que c'est pas tellement la reprogrammation qui nous intéressait, c'est le fait que quand on met cet embryon dans une mère, on constate une grosse perturbation de tout ce qui est des interactions, la communication entre cet embryon et la mère.
Est-ce que ça veut dire que l'utérus refuse le nouvel embryon ? On peut le dire comme ça ?
En fait, l'utérus trouve que l'embryon ne lui parle pas suffisamment correctement pour qu'il l'accepte.
Donc c'est un problème de dialogue, on pourrait dire.
C'est une forme de... Alors j'aime pas trop le mot dialogue, mais disons plutôt de communication. Oui.
Ouais. Olivier Sandra, on le disait, 10% de réussite seulement de clonage ?
Écoutez, effectivement, ce sont les chiffres qu'on a, et ce que disait Axel au départ, on est entre 5 et 15% de réussite chez les bovins, et c'est déjà un pourcentage qui est relativement élevé parmi tous les mammifères qu'on a réussi à cloner. Mmh.
Quel est le but des recherches que vous menez là sur le clonage exactement, en France, à l'INRA, puisque c'est interdit en France
Alors le but, c'est d'abord, il y a un but très très cognitif, hein, qui est de comprendre comment l'implantation, qui est une étape critique de la gestation, se déroule. en fonction de l'embryon que l'on réintroduit dans la mère. Et puis deuxièmement, effectivement en France c'est interdit, mais ça ne veut pas dire que c'est interdit partout. Et à ce moment-là, on essaie de comprendre quand même comment améliorer la technique du clonage au niveau mondial.
Donc c'est quoi, de la recherche fondamentale avant tout, mais des pays qui, sur les applications, sont très intéressés, comme les États-Unis par exemple ?
Vous avez entièrement raison, vous avez vu que le papier était une collaboration entre un laboratoire français et un laboratoire américain, donc on ne s'interdit pas de travailler sur le clonage pour des aspects fondamentaux en France et en Europe. Par contre, dans les aspects plus appliqués, effectivement, même si nous ne pouvons les mettre en valeur et en pratique, on a quand même des collaborateurs qui sont intéressés.
Est-ce que ce mécanisme de sélection des embryons au tout début de la gestation joue un rôle dans la reproduction classique ? Est-ce que ce que vous avez découvert peut s'appliquer à d'autres types de reproduction ?
Oui, vous avez raison. Effectivement, on avait déjà publié un papier dans PNAS en 2009 qui montrait que l'endomètre réagissait de façon différente en fonction des types d'embryons. Et chez l'humain, un groupe anglais a montré que l'endomètre était capable, enfin donc la partie de l'utérus qui est attachée à l'embryon, est capable de reconnaître les différents types d'embryons, voire de sélectionner, d'éliminer les mauvais.
Pour aller un tout petit point sur la finalité de ces recherches, est-ce que le but c'est d'essayer de contourner ce mécanisme qui bloque pour le moment ? Qu'est-ce que vous voulez faire une fois que vous aurez compris ?
Alors on peut imaginer de le contourner, mais pas forcément le contourner au moment de l'implantation. On pourrait déjà le contourner en essayant d'améliorer la qualité de l'embryon, puisque le message initial est envoyé par l'embryon, c'est une réponse de la part de l'endomètre que l'on constate. Et puis ensuite, on peut imaginer que dans certains cas, on puisse améliorer le processus implantatoire par lui-même.
Mais pourquoi s'acharner au fond sur une technique qui montre ses limites quand même, puisque l'échec est énorme, hein, sur 100%, donc 10% seulement de réussite. Pourquoi absolument persister dans cette idée du clonage ? Ça sert à quoi au fond, Olivier Sandra ? J'aimerais bien savoir.
Vous voulez savoir en quoi le clonage est utile ou quelle est l'application qu'on peut en avoir
En quoi c'est utile ? En quoi c'est intéressant de s'acharner alors que finalement on pourrait avoir des animaux autrement, non ?
Alors effectivement, vous avez raison, on a d'autres façons d'obtenir des animaux dont les performances zootechniques peuvent être intéressantes, mais on a aussi la possibilité, par cette technique un peu particulière qu'est le clonage, d'obtenir des animaux qui présentent des caractéristiques assez identiques par rapport aux fondateurs et qui pour l'instant ne sont pas sensibles d'une autre façon.
Est-ce qu'il n'y a pas des risques à vouloir contourner le mécanisme pour augmenter les taux de clonage, tout simplement ?
Je ne pourrais pas vous dire qu'il y a un risque de façon immédiate. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que le fait de pouvoir peut-être avoir une meilleure sélection des embryons que l'on va pouvoir transférer après application de la technique du clonage, ce serait déjà une grande réussite.
On a notre sexologue Philippe Bruno qui a une question à vous poser, Olivier Sandra.
Oui, je profite de votre expertise pour vous poser une question que je me pose depuis très longtemps. Vous savez que toute la recherche, et j'en ai fait en neurophysiologie, elle est toujours à visée humaine. C'est quand même pour essayer d'améliorer, même si là, ça serait des animaux qui nous serviraient. Bon. Est-ce que le clonage humain a été réalisé aujourd'hui ?
Oh là !
Ah, vous avez raison de poser une question aussi.
aussi là. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez
parce que quelque part dans un laboratoire,
que ça ait pu se faire ?
Absolument, oui.
Alors, je dirais que techniquement, je ne vois pas en quoi il pourrait y avoir des limites à réaliser le clonage humain. C'est plus un problème éthique maintenant que les gens vantés d'avoir un clone vivant et sur pied. Je pense qu'on n'en est peut-être pas encore là et c'est peut-être pas quelque chose qu'on saura tout de suite.
Personne ne s'en est vanté, mais est-ce que vous pensez, vous, votre intuition profonde, Olivier Sandra, effectivement, chez
quelques
des chercheurs peu scrupuleux, voilà, est-ce que vous pensez que ça existe déjà quelque part ?
Ah, des chercheurs peu scrupuleux, comme dans tout corps de métier, on peut trouver des gens peu scrupuleux. Par contre, après, avoir des clones qui soient vivants et identifiables, je vous rappelle que le premier clone a quand même que 20 ans, et donc on viendra peut-être un jour à identifier, mais honnêtement, là, je pourrais pas me positionner sur cette question-là.
Et c'était une brebis, hein. ça n'était pas un humain, c'était Dolly.
Non.
Et ce n'était pas une brebis galeuse.
Une petite question supplémentaire qui nous permettra peut-être de trouver les clones. Est-ce qu'un clone garde une trace de son clonage ? C'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un et que j'analyse sa génétique ou son sang, je peux savoir que c'est un clone.
Vous allez vous reconnaître. ça fait bip.
Alors, oui, effectivement, vous pourriez peut-être vous reconnaître si le clone a le même âge que vous.
Oui.
Mais par contre, je dirais qu'a priori, on n'a pas de façon simple de pouvoir identifier un clone uniquement par, je dirais, un traçage génétique. C'est pas un OGM.
Quelle est la prochaine étape de vos recherches maintenant, Olivier Sandra ?
Eh ben, la prochaine étape, ce sera de pouvoir identifier dans quelle mesure on peut essayer, un, de mieux sélectionner les embryons qu'on pourrait transférer, à la fois après la technique de clonage ou après d'autres utilisations de technologies de l'embryon, et de pouvoir peut-être mieux adapter la receveuse qui voit arriver cet embryon par rapport à la qualité de cet embryon.
Merci beaucoup Olivier Sandra de l'INRA de Jouy-en-Josas avec cette publication qui vient de paraître. Merci pour votre éclairage et puis Axel, si vous croisez votre Claude, vous nous faites signe.
Je lui fais une prise de sang directement.
Allez, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les poissons reviennent après le tsunami. Depuis mars 2011, et le tsunami qui a frappé la côte est du Japon, les villes se sont reconstruites et les fonds marins également. Une étude parue cette semaine dans la revue PLOS décrit 5 ans de résilience des écosystèmes avec une précision jamais enregistrée. D'abord, les petits poissons reviennent à cause de leur cycle de reproduction court et leur moindre sensibilité à la pollution. Puis, les plus gros, petit à petit, et enfin les prédateurs, attirés par l'abondance de la nourriture. Une progression logique et bienvenue qui montre également que la qualité des eaux sur la côte revient petit à petit à la normale dans ces zones éloignées de Fukushima. D'après l'empreinte de son pied, Chewy était un très grand australopithèque. Voici le nom imaginé par les chercheurs pour nommer celui qui a marché il y a plus de 3,6 millions d'années dans la boue tanzanienne et qui a laissé la plus grande trace de pas connue à ce jour pour un australopithèque. Selon les simulations, Chewy, nom inspiré de Chewbacca, le très grand personnage poilu de la saga Star Wars, mesurait 1,70 m, soit 20 cm plus grand que la moyenne des australopithèques. Il pesait 48 kg et était, selon les auteurs, un des mâles dominants de son groupe dont la structure sociale ressemblait à celle des gorilles actuels. Et puis pour terminer, nous vous proposons la photo d'un autre animal lui aussi inspiré d'un film. Il s'agit de l'araignée Eriovixia griffindori, découverte récemment en Inde. Et pourquoi ce nom? Eh bien parce qu'il est inspiré de Gryffondor, la maison du sorcier du célèbre Harry Potter, et simplement parce que son corps ressemble comme deux gouttes d'eau à un chapeau magique, une forme particulière qui permet à cette toute petite araignée de 7 mm de se mettre sur le bout des feuilles mortes, feignant d'en être la pointe. La photo potoresque est à voir sur le Facebook de La Tête au Carré. Allez, la sexualité des personnes âgées dans un instant, c'est notre dossier.
Switch on my core if I kill any pain. Vous allez consacrer un chapitre à la sexualité dans votre thèse.
Oui, j'aimerais bien.
Est-ce que, d'après vous, j'ai encore des rapports sexuels avec mon mari, par exemple?
Je ne sais pas.
Ah, il vous manque des éléments de terrain, là.
Oui, c'est vrai. Mais c'est un peu gênant, non?
Je ne fais que très rarement l'amour avec Albert. Mais je me masturbe beaucoup. Interrogez-moi.
Je ne sais pas, j'ai pas préparé.
Improvisé.
Est-ce que vous...
Allez-y, franchement, Dirk. Qu'on arrête de penser que les vieux sont asexués. On n'est pas des anges, merde.
Voilà, extrait d'un film sorti en 2012 dans lequel il y a beaucoup de choses déjà pour notre discussion. Et si on vivait tous ensemble de Stéphane Roblin, et que devient notre désir et notre plaisir lorsque nous vieillissons? C'est le dossier de l'émission justement cet après-midi. La sexualité, le vieillissement, pour en parler, Gérard Rib et Philippe Bruno. Gérard Rib, vous êtes psychiatre, sexologue et enseignant-chercheur à Lyon 2. Vous avez publié Sexualité et vieillissement aux éditions Chroniques Sociales. Et puis Philippe Bruno, vous êtes psychiatre, sexologue, auteur avec Laetitia Corinne de Sex Story, la première histoire de la sexualité en bande dessinée aux éditions Les Arènes. Et vous êtes avec nous tous les mois pour des thématiques sur la sexualité avec les auditeurs qui nous rejoignent, les messages sur franceinter.fr et le mot-clé d'attaque. J'aimerais d'abord vous donner ce premier message qui nous arrive de Alain et qui nous dit « Pourquoi ce thème? J'ai 76 ans, on n'a pas besoin de vos parlottes, nous ne sommes pas des malades, même si certains demandent de l'assistance. On a besoin de personne pour gérer notre vie sur ce point-là comme sur beaucoup d'autres. Arrêtez de stigmatiser les jeunes, les vieux, les femmes. » Voilà, ça commence bien. Gérard Rib, qu'est-ce que vous répondez à Alain?
Ah, mais je trouve ça extrêmement intéressant, parce que justement, la question c'est en quoi pendant très longtemps on a stigmatisé, et en quoi Alain reste encore peut-être dans cette vision d'une stigmatisation. Pour moi, le fait de participer à cette émission, c'est justement déstigmatiser les choses. On est dans un continuum de l'existence, avec des époques différentes de son existence. On a été enfant, on a été adolescent, adulte. Et puis, il y a un autre âge qui est un âge différent, qui est l'âge de la vieillesse, parce qu'on a un corps qui a changé, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont transformées. Il va falloir s'adapter à un certain nombre de choses. Et le problème qu'on peut souvent rencontré, c'est en quoi on ne s'adapte pas à cette nouvelle étape de son existence, ouais. Et en quoi on va être dans une difficulté dans cette adaptation. Mais après, si on est pleinement dans le développement de cette partie de l'existence, parce que la vieillesse est une étape de développement, hein, c'est pas une involution, c'est une autre étape de l'existence, donc on peut encore participer à tous les plaisirs de l'existence, on peut encore construire plein de choses, et non pas regarder simplement dans un passé, mais se projeter, ouais, aussi sur un avenir.
Et puis on va voir aussi ensemble, en avançant dans ce sujet, qu'il est objet d'exclusion et puis d'auto-censure également, d'auto-censure, de la part même des personnes âgées. Philippe Bruno.
Oui, et puis dans la réflexion d'Alain, il y a aussi le fait que pourquoi voulez-vous aller parler de notre sexualité? C'est quelque chose, c'est peut-être une génération, celle d'Alain, dans laquelle on ne devait pas parler. Le sexe, on le vit, on l'agit et on ne le parle pas. Et on se rend compte, et c'est un des enseignements, on le verra, c'est quand on peut le parler qu'on va lever des difficultés. Hein, et on peut oser en parler dans les couples. Les couples, souvent, qui sont aujourd'hui âgés, ont pris l'habitude de ne jamais parler de sexualité. Ils font avec une espèce de code entendu, et très souvent il va y avoir du malentendu.
Ouais, Gérard Rib.
Oui, par rapport à ce que vient de dire Philippe Bruno, là aussi, il faut faire des grosses distinctions sur les vieillesses, en fait. Hein. Les gens de 60 ans sont une génération après les gens de 80 ans. Donc il faut penser les choses aussi, comme l'a très bien dit Philippe Brenaud, en fonction de la manière dont les gens se sont construits dans une génération et comment ils ont une représentation d'eux-mêmes dans le cadre d'une génération. Et actuellement, ça évolue très vite avec l'arrivée des baby-boomers à l'âge des 70 ans, qui changent vraiment la donne.
Oui. Alors c'est une génération tout à fait particulière, évidemment, les baby-boomers, ceux qui ont vécu évidemment mai 68, la libération sexuelle, et qui sont aujourd'hui aussi des personnes âgées aussi. C'est une façon d'amorcer autrement la sexualité pour cette génération.
Parce que cette génération s'est construite sur l'idée que la sexualité est un élément de construction identitaire. C'est pas que de la sexualité, c'est j'existe en tant que personne autour de ma sexualité. Donc cette génération-là qui arrive autour des 70 ans, la sexualité fait vraiment partie de leur construction. Ouais. Et pas simplement comme une relation génitale, comme on pourrait l'imaginer, mais il faut vraiment parler d'identité pour cette génération.
Philippe.
Et puis c'est une génération qui ne se considère pas comme vieux. Ce terme a beaucoup changé. Quand on regarde d'ailleurs des représentations de nos grands-parents, arrière-grands-parents, au début du XXe siècle, très souvent, quelqu'un qui avait 50 ans avait un aspect extrêmement âgé. Et aujourd'hui, les gens qui ont 60 ne se considèrent pas comme vieux. Les gens qui ont 80 commencent à ne pas se sentir comme vieux. C'est étonnant, nous on le voit dans le milieu que l'on peut côtoyer, universitaire ou autre, on voit des intervenants de 80, 85, j'ai eu plusieurs intervenants de 90 ans, qui sont extrêmement brillants, qui ont une activité pas très différente dans le domaine intellectuel de ce qu'ils pouvaient avoir 20 ou 30 ans avant, et d'une certaine façon, je ne crois qu'ils ne se considèrent pas comme vieux, avec la difficulté, c'est que le fait de pas se considérer de cette façon-là amène des représentations dans lesquelles la sexualité fait partie de, pas c'est pas un jeunisme, fait partie intégrante de la vie qu'ils sont amenés à vivre.
Gérard Ribes.
Oui, par rapport à ce que vient de dire Philippe Brenaud, la vieillesse, c'est vraiment le regard qu'on a sur soi par rapport au regard que les autres ont sur nous. Donc quand on est dans quelque chose où on reste dans une dynamique du vivant, le regard que l'on peut avoir dans son âge est complètement différent par rapport au fait qu'on se soit exclu d'un certain nombre de choses.
Oui, c'est Benoît de Groult hein, justement qui le disait. Elle s'est sentie vieille le jour où on n'a plus posé les yeux sur elle. Au
tout
fond,
à fait,
hein,
c'est la transparence des âgés, disait Benoît de Groult. C'est merveilleux.
Quoi,
quoi, merveilleux. C'est une phrase extrêmement intéressante.
Voilà, qui est assez cinglante aussi. Ouais. En ouverture de ce livre, Gérard Ribes, vous racontez ce qui est arrivé à un monsieur de 80 ans qui est venu consulter pour un syndrome dépressif. Il était accompagné de son épouse. Tous deux avaient été des sportifs de haut niveau. Et puis ce monsieur s'est fait opérer et il y a eu un problème ensuite qui s'est posé, évidemment.
Oui, c'est une histoire assez classique qu'on va rencontrer avec des gens qui ont eu des interventions au niveau de la prostate en particulier, et qui, dans le fait de ne plus pouvoir se sentir comme un homme bandant, ne se sentent plus comme des hommes, en fait. Et là aussi, dans nos pratiques, Philippe Brenaud pourrait dire la même chose, quand on accompagne ces problèmes de sexualité, c'est pas un problème de sexualité. C'est je ne suis plus bandant, donc je ne suis plus un homme. Et dans cette génération-là, on rencontre de plus en plus ces problématiques. Et en particulier dans le suite des cancers de la prostate, nous, dans nos consultations, on voit beaucoup arriver d'hommes. Moi, je l'ai entendu que ce fois, qui me disait, si j'avais su les conséquences de mon opération, je ne serais pas fait opérer.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu aussi cette époque où la question de la survie était absolument centrale. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'est plus que ça. Et la qualité de vie
la
aussi.
Qualité de vie.
Et la sexualité, évidemment, en fait partie. Hein.
Bien sûr. Bien sûr.
La question identitaire, moi j'ai le souvenir d'un cas, j'en ai parlé quelques fois en public, qui était un ecclésiastique âgé qui vient consulter parce que il a une faiblesse d'érection. Et je lui demande s'il a une pratique masturbatoire. Il me dit non. Vous avez peut-être l'intention de vivre une sexualité avec quelqu'un. Pas du tout. Il me dit depuis mon enfance, le fait de bander le matin, d'avoir cette érection, était mon identité masculine. Et alors que je n'ai pas envie de réaliser cette sexualité, je me sens plus un homme. Il y a quelque chose d'assez compliqué. Alors ça, c'est un exemple assez démonstratif qui montre que la plupart des hommes pourront avoir des faiblesses. Après 60 ans, il y a des facteurs différents de la sexualité physique. Alors que le désir peut être permanent
et intact,
enfin à peu près en eux-mêmes, eh bien à ce moment-là, on va se trouver avec un décalage identitaire.
Ouais. On en parlera évidemment, l'aspect physiologique lié au changement effectivement d'âge. Ce qu'il faut quand même retenir, Gérard Rib, en début d'émission, c'est ce fossé qu'on évoquait tout à l'heure, qui reste quand même très marqué entre une personne adulte et une personne plus vieille. Ce fossé qu'on renvoie d'ailleurs aux personnes âgées dans notre société.
Oui, absolument. Et il y a quelque chose aussi qui, moi je trouve, est une forme de protection des plus jeunes. C'est dans une forme de désexuation des âgés. Du coup, il y a un monde des âgés qui serait un monde désexué.
Ouais.
Et donc, je ne suis pas là-dedans, moi, en tant que plus jeune. Et puis, un monde qu'on va qualifier d'adulte, qui, lui, aurait un plein épanouissement de sa sexualité, qui aurait un accès à la sexualité.
Ouais.
Mais ça marque bien quelque chose de cet écart de génération. Et puis, ça marque quelque chose qui est connu depuis très longtemps, c'est que la représentation de la sexualité de la génération d'avant est quelque chose d'extrêmement difficile.
Loli nous dit, je ne sais pas à quel âge on est une personne âgée, mais je pense que le tabou commence autour de la cinquantaine, ménopause pour les femmes. Étant divorcée, je vois ma ménopause dans le regard des hommes de ma génération qui vont vers des femmes plus jeunes. Et il y a beaucoup de messages en ce sens.
Oui, tout à fait. On a une de nos collègues très connue canadienne, Rosemary Besson, qui a beaucoup travaillé autour de ça en disant que le désir des femmes existait par le regard que les hommes portaient sur eux. Et comment ces femmes qui se sentent vieillissantes, qui ont un changement corporel au moment de la ménopause, ne sont plus regardées par les hommes, donc on revient autour de ce que disait Benoît de Groult, se retrouvent dans une souffrance et parfois un manque de désir, mais non pas un manque de désir parce que c'est leur physiologie qui l'impose, mais un manque de désir parce qu'elles ne se sentent plus désirables. Et pour désirer, il faut se sentir désirable.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Avec des gens qui sont intelligents, et moi j'ai pas d'avis parce que je trouve que ça dépend. Je suis passé dans le futur, j'avais trop envie d'y repasser. Je me suis fait plein de contacts là-bas, les gens ont plein de projets, et moi je n'existais plus. C'est pas important. J'ai entendu ta voix dans la radio. Et elle disait, on joue tous la même chanson, mais on la joue pas de la même façon. On écoute tous la même chanson, mais on l'entend pas.
Dans la radio, c'était Jacques.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et puis, je vais dans les clubs, les associations, j'essaie partout. J'y vais une fois, deux fois pour me rendre compte. Et puis, j'y ai rencontré surtout des femmes. Les hommes, ils cherchent l'aventure. Ils cherchent des femmes encore jeunes et sexy. Et ils cherchent souvent à s'amuser. Et ils cherchent surtout des femmes sensuelles, même à 80 ans encore. Parce que la plupart des femmes sont complètement différentes. Les femmes cherchent encore de l'affection. Elles cherchent à plaire, à être aimées, à trouver un complice. Et la seule chose qu'on leur propose, c'est d'aller au lit. Et même chez les gens âgés, ils proposent ça très rapidement. Ils se renseignent tout de suite pour savoir s'il y a une possibilité. Et s'il n'y a pas de possibilité, les femmes ne les intéressent pas.
Voilà ce témoignage extrait des Nuits Magnétiques de France Culture en 1992, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire aussi, et qui d'ailleurs fait écho à pas mal de questions et de remarques des auditeurs. Maria nous dit ceci: que pouvez-vous dire des êtres humains encore désirants au même âge vieillissant et du désir masculin attiré davantage par la jeunesse du corps féminin? Alors, Gérard Ribes et Philippe Bruneau.
Par rapport à la jeunesse du corps féminin, alors là je voudrais pas faire de généralité, mais on peut dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui se rassurent aussi par ça. Il se rassure parce que il reste dans une position, on va dire, un peu de mâle dominant,
ouais,
de celui qui peut encore conquérir. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, bon, je vais parler un peu de physiologie et d'anatomie,
ouais,
mais un vagin de 40 ans n'est pas le même qu'un vagin de 80 ans. Et il se trouve que le vagin participe aussi à l'érection des hommes, puisqu'il y a une forme de constriction autour du pénis. Donc les hommes se sentent plus bandants, un, parce que leur désir est plus important, parce que ce que je l'ai dit juste avant, dans leur image d'eux-mêmes, et puis physiologiquement. Donc il y a quelque chose qui va se renforcer autour de ça. Mais bon, il ne faut pas considérer quand même que la plupart des hommes sont intéressés par les générations d'avant. On pourrait dire deux choses différentes. Il y a toute la dimension relationnelle de la sexualité, qui va être une dimension qui va se situer dans une tranche d'âge, on va dire, dans une forme de cohérence, et qui va créer du lien. Et puis, il y a toute cette sexualité qui est plus une sexualité où on va tenter de se... qu'on va tenter comme moyen de continuer à se sentir un homme ou une femme en tant qu'individu. Donc il y a vraiment ce côté un relationnel, deux individuel. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Ah oui, vous l'avez été, Gérard Ribes. Philippe Bruneau, pour compléter.
Une réaction toujours par rapport à ce témoignage qui est intéressant. C'est vrai que beaucoup de femmes peuvent être choquées, hein, dans les relations hétérosexuelles. Des femmes peuvent être choquées par le fait que des hommes de leur âge désirent des femmes plus jeunes. Il est vrai aussi qu'il faut passer un message aux femmes et qu'elles sachent qu'il y a quelque chose de l'ordre du physiologique, que les hommes, au fil des ans, nécessitent plus de stimulation. C'est-à-dire qu'à 20 ans, un homme, allez, on parle de façon triviale, bande facilement, à 30 aussi, à 40, à 50, il faut plus de stimulation. Et souvent, les femmes qui n'ont pas appris à plus stimuler se trouvent désarmées. Je crois qu'il faut apprendre qu'on est tous inégaux avec l'âge.
Ouais, il y a ce témoignage de Jacqueline qui nous dit: j'ai 66 ans, je suis depuis peu en couple avec un homme de 68 ans, nous avons une vie sexuelle très épanouie, nous faisons l'amour tous les jours, parfois plus. Je crois que lorsqu'on a eu une vie sexuelle épanouissante auparavant, il n'y a aucune raison de ne pas continuer.
Ah, tout à fait.
C'est ce que vous disent certains de vos intervenants d'ailleurs dans l'ouvrage.
Bien sûr. D'une manière générale, quand même, on vieillit comme on a vécu. Donc si la sexualité a eu une place dans sa vie tout au long de son existence, ça va continuer à être présent. Et puis par rapport à ce qu'on évoquait avant, ce que disait Philippe Bruneau, il y a vraiment ces deux niveaux de stimulation. Un niveau de stimulation physiologique et puis un niveau de stimulation relationnelle. Donc les femmes seront dans une stimulation relationnelle, donc il faut que les hommes pensent aussi l'importance de cette stimulation relationnelle, hein, de tous les éléments de la création du lien, et il faut que les femmes pensent que justement leurs compagnons ont plus besoin aussi d'une stimulation en termes physiques. Ouais. Et c'est dans cet équilibre-là que va se trouver un équilibre de la sexualité.
Alors différents témoignages, Francine, elle, de son côté, nous dit: j'ai 62 ans et je suis déçue par ma sexualité, j'aimais tant faire l'amour et maintenant je n'ai plus de pulsion, ça perturbe ma vie de couple, j'aime mon mari et ça m'attriste. Vous avez souvent ce genre de témoignage?
Oui, bien sûr. Alors là aussi, moi, je crois intéressant de réfléchir pour ce témoignage à d'abord l'histoire personnelle. Il peut s'être passé des événements de l'histoire de vie. Peut-être regarder aussi, il y a un climat hormonal quelquefois qui va peut-être déstabiliser le désir. Et je dirais que là, le désir féminin qui souvent est paraît plus psychique, quelquefois il peut être un peu altéré par des conditions du vieillissement. Mais je crois qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent aider. La plupart des médecins sexologues sont formés à ça et peuvent donner des réponses et bien conseiller.
Denise nous dit, je ne suis sans doute pas normal, j'ai 60 ans, depuis environ 10 ans, je ne ressens plus aucun désir sexuel. La tendresse, l'attention, oui, mais tout le reste, non.
Il n'y a pas de normalité en matière de sexualité. La question, c'est est-ce que c'est une souffrance ou pas? Si c'est pas une souffrance, on peut avoir une vie sans sexualité tout au cours de son existence. Ou alors avoir une période où la sexualité avait une place et pas un autre moment. Là aussi, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant à pas normer les choses. Il faut pas à tout prix que. La question, c'est est-ce que c'est en équilibre avec moi?
Claude nous dit, j'ai 63 ans et le désir de l'acte sexuel sont primordiaux pour mon bien-être et mon équilibre. J'ai malheureusement besoin d'injections, alors d'androtardiles, pour maintenir une libido satisfaisante, représentant un risque de cancer ou d'AVC. Quels sont, à votre avis, les facteurs qui pénalisent ou favorisent la libido des seniors? Alors, Philippe Bruno, ce type d'injection d'abord...
Ce type d'injection, ça c'est de la testostérone, c'est parce que visiblement, Claude en manque, mais là c'est un diagnostic médical. Il n'y a pas d'andropause telle que on a pu le prétendre pendant un temps. On disait qu'un arrêt de la fécondité pour les femmes, un arrêt de la sexualité pour les hommes, non. Mais chez 10% des hommes, chez une petite part, il va y avoir une baisse hormonale et qui peut être compensée et on peut retrouver une sexualité tout à fait satisfaisante.
Et Laetitia nous dit, j'ai une question importante, mon époux me dit qu'avec la ménopause, le désir sexuel de la femme peut augmenter en lien avec les hormones mâles. Qu'en est-il,
Gérard? Pas en lien avec les hormones mâles. Oui, c'est un peu raccourci. L'hormone du désir, c'est la testostérone, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Au moment de la ménopause, il y a une petite baisse de la testostérone chez les femmes, mais pas très importante. Ouais. Donc, en termes hormonales, les choses se maintiennent. Après, c'est toute la question qu'on a déjà évoquée en termes relationnels, en termes d'image de soi, qui vont faire que les choses vont pouvoir évoluer dans un sens ou dans un autre. Je peux vous raconter une toute petite anecdote. Il y a quelques années, on a eu une étudiante qui venait d'Afrique et qui voulait me faire un mémoire dans le cadre d'un diplôme de sexologie. Et elle nous dit, moi, dans mon ethnie, la ménopause n'existe pas. Comment ça, la ménopause? Elle était gynécologue. Hein. Elle me dit, en fait, oui, dans mon ethnie, une femme qui est ménopausée devient supérieure des hommes.
Ah.
Donc, à ce moment-là, tous les symptômes que vous décrivez, vous, comme étant des symptômes négatifs, font qu'au contraire, toute femme attend ses premières bouffées de chaleur pour changer de
sexe. C'est ça.
Et ça augmente son désir.
Voilà. Et là, on retombe sur les représentations culturelles de la sexualité.
Ça, c'est formidablement important. Alors, effectivement, toute une grande part des membres de la tradition, en Asie du Sud-Est, une femme ménopausée a des prérogatives d'homme, peut fumer la cigarette.
Ouais.
Mais, par exemple, dans le monde arabo-musulman, il y a peut-être beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, le mot qui veut dire ménopause signifie malédiction et carrément fin de la vie de la femme. C'est ce à quoi on s'est opposé. Les gynécologues le disent depuis très longtemps. Non, la ménopause ne baisse pas la sexualité. Au contraire, libère certaines femmes, par exemple des règles, et elles peuvent trouver un meilleur épanouissement.
Nouvel extrait du film « Et si on vivait tous ensemble », Guy Bedos et Géraldine Chaplin.
Elle te plaît, la petite kiné, hein?
J'ai rien. J'ai même pas réfléchi.
T'as besoin de réfléchir pour savoir si elle te plaît?
Je la trouve pas mal.
Ha! Pas mal! Tu pourrais donc envisager...
Qu'est-ce que tu racontes? Elle a 30 ans!
Ben, je sais pas, moi. Tu débarques ici, tu m'agresses avec tes questions. Est-ce que j'ai eu une liaison avec Claude? Ben, moi, je veux savoir si tu bandes pour la kiné. C'est tout.
On peut même pas parler avec toi.
Réponds!
Oui! Je bande! Je bande pour la kiné! J'aime son cul et ses petits seins en poire. Je bande comme un taureau pour cette petite salope. Voilà. T'es contente?
Voilà, Guy Bedos, plus Guy Bedos que jamais dans cet extrait. Une réaction, Gérard Ribes?
Oui, moi c'est bien parce que c'est rester dans la dynamique du vivant, dans quelque chose qui est là aussi une forme de transgression, une forme de joyeuseté de la vie.
On voit l'érection quand même érigée toujours comme comme repère.
Hein. Ah, l'érection comme repère. Ouais,
comme étalon.
On peut le dire comme étalon.
Comme étalon, mais avec le soulagement. Il faut quand même imaginer, c'est difficile de le faire, un homme qui perd son érection au milieu de la vie. Et lorsqu'il va la retrouver, quelle jubilation, pas sexuelle, j'existe à nouveau. Et c'est important pour les
donc
femmes.
Donc on peut la perdre et la retrouver. C'est déjà une bonne nouvelle, ça, quand même.
Oui, enfin, on va aider.
Mais non, mais c'est pas mal.
Bien écoutez, sûr, on va la retrouver.
Ouais. C'est ce que je retiens, quand même. Allez, Nat King Cole, et on se retrouve juste après.
Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú. Tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días. Desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. Hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás.
Et la voix de Nat King Cole à l'instant sur France Inter. Gérard Ribes et Philippe Bruno, mes invités pour parler de la sexualité des seniors avec ce livre Sexualité et vieillissement qui est paru chez Chronique Sociale dans la collection Comprendre les personnes. Et c'est une deuxième édition d'ailleurs, Gérard Ribes, que vous publiez. Je voudrais vous donner ce message de Franck qui nous dit « Quel dommage que votre émission sur la sexualité des seniors qui critique la normalisation reste exclusivement hétérocentrée dans ses analyses. » Alors, il faut lui répondre. Alors, Philippe Bruno.
Oui, je le crois pas directement. Enfin, en tout cas, dans notre tête, ça l'est pas. Il se trouve que il y a eu des questions aussi de femmes qui parlaient de la relation hétérosexuelle. Mais, la sexualité, homosexuelle, par exemple, ne va pas échapper aux mêmes choses. C'est-à-dire qu'il va y avoir des difficultés liées à l'âge. Et très souvent, d'ailleurs, ça permet de dire que très souvent, une grande part des difficultés, outre le vieillissement dont on parlait à l'instant, viennent de maladies liées à l'âge. Plus, d'ailleurs, c'est-à-dire que s'il y a du cardiovasculaire, si on a un problème métabolique, on va avoir une incidence, par exemple, sur la sexualité masculine, qu'elle soit homo, qu'elle soit hétéro, il peut y avoir des difficultés physiques.
Ouais.
Par contre, je crois que ça n'altère pas plus.
Gérard Ribes, pour évoquer le vieillissement de la sexualité homosexuelle aussi.
La sexualité, qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle, ça parle toujours de relation à soi, relation à l'autre. Donc dans un contexte relationnel qui est différent, mais pour moi les éléments sont très très comparables. En fait.
Alors, qu'est-ce qui se passe physiologiquement justement? Le corps change évidemment avec le vieillissement, et du point de vue de la sexualité, alors qu'est-ce qui marque, on va dire là dans une sexualité un peu standard, les changements du corps?
On peut dire, comme on l'a déjà un peu évoqué, que tout nécessite plus de stimulation en fait. Donc que ça soit une stimulation physique
ou relationnel. Et un des éléments qui va faire justement peut-être des entrées en pathologie aussi, c'est qu'il y a une non-actualisation des fonctionnements. C'est-à-dire que les gens restent sur des fonctionnements qui sont des fonctionnements antérieurs, ou comme l'a évoqué Philippe Breneau, à un moment de l'existence, il suffit d'eux pour qu'il y ait une érection, ou il suffit d'eux pour qu'il y ait une lubrification. 20 ans, 30 ans après, les choses sont différentes.
Ouais. Mais les troubles de l'érection, par exemple, ils sont réels en vieillissant?
Oui, ils augmentent d'une manière linéaire. Donc ça, oui, ils sont réels, ils sont présents. On les rencontre, le chiffre, je ne l'ai plus exactement, c'est 30% après 60 ans.
Entre 60 et 69 à peu près un tiers.
Environ un tiers. Mais là aussi, il faut situer les choses dans du circonstanciel ou du permanent.
Ouais.
Tout homme a des troubles de l'érection. Ça n'existe pas un homme qui n'a pas de troubles de l'érection. Ça n'existe pas un moment où il n'y ait pas une difficulté érectile.
Et du côté des femmes
Du côté des femmes, la question la plus importante qu'on nous pose quand même si ça a changé, c'est la question du désir. Donc, est-ce que je suis encore désirante, désirable? Et puis la deuxième question, qui est la question importante en termes de physiologie, c'est les problèmes de lubrification.
Ça change aussi avec l'âge.
Après la ménopause, 5 ans après la ménopause, en gros, la lubrification diminue. Plus il y a de rapports sexuels, plus la lubrification est maintenue. Et par contre, il va falloir parfois associer un certain nombre de crèmes, de gels, pour avoir quelque chose qui est un confort et éviter les douleurs pendant les relations sexuelles.
Un très beau témoignage de Céline qui nous dit « J'ai été cadre coordinateur dans une maison de retraite et j'ai dû gérer une révolte des aides-soignants parce que deux résidents, pas mari et femme, ayant chacun un conjoint, semblaient entretenir une relation plus qu'amicale. Nous les avons trouvés quelquefois dans le même lit. C'était comme si nous étions dans un pensionnat à surveiller des ados. J'ai eu beaucoup de mal à convaincre que tout vieux qu'il était adulte, très visiblement consentant et que cela ne nous regardait pas. » Philippe Breneau.
C'est une révolte depuis une vingtaine d'années dans les maisons de retraite. Les personnels n'étaient pas habitués à cela. Ouais. D'abord, il y a une actualisation de la sexualité chez les personnes âgées avec des vraies rencontres. Et là, actuellement, je réfléchis sur la lettre d'amour. On voit des lettres d'amour à tous les âges de la vie, à 60, 70, 80 ans. Parce qu'il y a beaucoup de rencontres. On a parlé des divorces après 60 ans. Mais il y en a alors que ça n'existait pas. Mais parce que comme il y a des recombinaisons à tous les âges de la vie, eh bien on fait des rencontres. Les gens sont sur des sites de rencontres à 80 ans, rencontrent un partenaire, ont une vie auquel les personnels ne sont pas toujours préparés.
Et puis c'est comme si on était, comme si dans les institutions, les soignants étaient dégarnis d'une morale. Et c'est confondre quelque chose entre une forme de morale et une forme d'accompagnement de la vie des gens.
Ouais.
Dans les institutions, on accompagne la vie des gens.
Caroline nous dit, contrairement à votre auditeur précédent, je suis absolument ravi que vous traitiez du sujet de la sexualité de seniors parce que je commence à m'interroger sur le devenir de mes relations sexuelles avec mon mari, qui a quelques années de plus que moi. Parler de la sexualité des seniors ne stigmatise pas du tout cette catégorie de la population. Bien au contraire, elle l'a fait sortir de cet ostracisme médiatique dû à notre éducation et notre carcan judéo-chrétien. Merci pour votre émission, nous dit... cette auditrice Caroline, Philippe Breneau.
Oui, et ça évoque aussi, elle parle d'un écart d'âge. Effectivement, il y a dans la création du couple en Occident et en France en particulier, et dans les couples hétéros par exemple, il y a toujours une différence d'âge qui est encore dominante. Quelquefois 2, quelquefois 10, quelquefois plus. Et effectivement, la femme est toujours plus jeune. Et c'est vrai que les deux sexualités vieillissent pas tout à fait de la même façon. C'est-à-dire que notamment au niveau sensoriel, la plupart des hommes continuent à avoir des stimulations, notamment visuelles, qui sont efficaces.
Ouais.
Alors que les femmes s'intéressent plus à la globalité de la relation. Et très souvent, je vais pas le développer, mais je trouve qu'on ne devrait pas parler de désir. On devrait trouver un autre nom. Autant les femmes savent ce qu'est le désir dans sa complexité relationnelle. Les hommes sont très fixés sur un réflexe d'excitation qui n'est pas du tout le même terme que désir. Et c'est là qu'il va y avoir peut-être des décalages avec le vieillissement entre le désir des hommes et le désir des femmes.
Écoutons l'extrait de ce documentaire « Nos amours de vieillesse » sur justement la transformation aussi des relations entre amoureux.
À 20 ans, c'est surtout physique. C'est sensuel, c'est tout. À 80, à mon âge, il y a d'autres facteurs qui jouent. Hein. On est plus raisonnable. C'est raisonnable quand c'est partagé. Si c'est pas partagé, c'est pas raisonnable.
Et on ferme les yeux, on est heureux d'être ensemble, dans les bras l'un de l'autre, me serre très fort. Et puis m'embrasse en même temps, dans le cou.
C'est mieux d'avoir un compagnon et sur qui se blottir un peu le soir avant de s'endormir. C'est plus agréable que toujours se retrouver seul, comme ça.
Voilà Gérard Ribes, très joli extrait de ce documentaire.
Oui, et ben, ça parle bien de relations, justement. Ça parle bien comment, en vieillissant, et en particulier quand on rentre dans ce qu'on peut qualifier d'une grande vieillesse, et la dimension relationnelle de la sexualité devient la dimension la plus importante. C'est vraiment cette dimension d'une rencontre à travers un corps et une forme, ce que j'appellerais, de papotage corporel qui peut aller jusqu'à un acte sexuel ou pas. Oui. Mais en tout cas, ça parle de rencontre.
Dominique nous dit, j'ai 62 ans, je suis une femme, j'ai été mariée, j'ai eu 3 enfants, voilà 13 ans que je ne fais plus l'amour et ça ne me pose aucun problème, je m'éclate quand même dans la vie, je découvre votre sujet avec étonnement, je n'y avais jamais pensé. Et pour être honnête, je manque davantage de tendresse justement que de sexe. Voilà pour ce témoignage. François nous dit, vous dites, il faut que les femmes comprennent que les hommes, mais il serait bon aussi de dire qu'il faut que les hommes comprennent que les femmes, même âgées, ont également besoin de préliminaires, de préambules, tout comme les moins âgées d'ailleurs.
C'est ce qu'on a évoqué, hein. C'est comment il y a cette stimulation relationnelle. Et ça en fait partie.
Lucie nous dit, mon témoignage, j'ai 54 ans, cet été j'ai rencontré un homme de 66 ans, rencontre simple, extraordinaire, émerveillement, alchimie quasi immédiate, très vite il y a eu rapprochement physique. Panne, découverte pour moi d'un vrai drame, pas d'érection depuis un an. Il a mis un terme à notre relation à cause de son incapacité à me satisfaire. Pas du tout partagé par moi, bien au contraire, il me comblait complètement. Je reste toujours très éprise. Quelle tristesse, on va lui dire, mais il faut aller le voir, cet homme.
Oui, moi je dirais.
Il faut lui dire que vous l'aimez, malgré ses pannes.
Moi je dirais que quel dommage que cet homme ait pensé que une panne. D'abord, il faut que les hommes sachent, ceux qui écoutent actuellement, que la plupart des femmes attache moins d'importance aux pannes que nous, c'est hommes, nous pouvons y attacher. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la terre s'effondre et il va dire, oui, la relation est terminée, et elle va dire, c'est pas très grave.
Gérard Ribes.
Oui, tout à fait. Je disais, c'est très très important, ça. Et puis, ça renvoie toujours à cette peur de la performance chez les hommes, quoi. Il faut que ça marche. Et c'est vrai qu'on voit un certain nombre d'hommes qui vont arrêter la sexualité parce qu'ils ont peur que ça marche pas. Et du coup, ils préfèrent s'extraire de la sexualité. Et c'est dommage, là aussi.
Merci beaucoup à tous les deux. C'était important de discuter de ce sujet dont on entend rarement parler, sexualité et vieillissement, pour prolonger justement la réflexion. C'est cet ouvrage, Gérard Ribes, que vous avez publié pour comprendre et anticiper les évolutions. Ce livre aux éditions Chroniques Sociales est préfacé par Pierre Costa. Et puis Philippe Brenon, on trouve toujours l'histoire de la sexualité en bande dessinée. Oui, c'est une bonne idée, sûr, de cadeau pour Noël, bien justement, bien, et pour rigoler aussi autour de la sexualité. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Sans transition à faire sentir.
J'espère bien.
Dans un instant.
J'espère bien, j'ai eu peur.
Quel sera le thème?
Les vedettes de Cherbourg, rien à voir avec les parapluies. Là, oui. C'est une affaire diplomatique très embarrassante pour la France et qui remonte à 1969. Et dont nous parlerons avec notre invité Patrick Pénaud. Beaucoup d'auditeurs, oui, me parlent de Patrick Pénaud. Eh bien, ils auront Patrick Pénaud et Affaires Sensibles pour le prix d'or.
Eh ben ça nous fait plaisir de l'entendre, voilà. Patrick. À tout à l'heure.
Salué par la presse internationale, Manchester by the Sea. L'histoire bouleversante d'un homme obligé d'affronter un passé qu'il avait choisi de fuir.
Personne ne peut comprendre ce que vous avez vécu.
Un chef-d'œuvre pour le magazine Rolling Stone. Déchirant et majestueux pour le monde. Casey Affleck, Michelle Williams, Manchester by the Sea. Un tourbillon d'amour, de tendresse et d'humour. Actuellement au cinéma.
Citations les plus absurdes entendues sur l'environnement.
Les changements climatiques, j'y croirai quand je les verrai.
Le réchauffement climatique, c'est pas pour rien qu'on a inventé la clim.
Absurde, non ? Comme de ne pas choisir l'électricité verte quand c'est au même prix. C'est pourquoi Engie poursuit son engagement dans les énergies renouvelables. Alors, l'élec verte, vous vous y mettez quand? Souscrivez en 5 minutes sur particulier.engie.fr. Pour tout kilowattheure que vous consommez, l'équivalent en électricité renouvelable est injecté dans le réseau. Offre à prix de marché, voire conditions sur particulier.engie.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter.
On aime,
on vous en parle.
Letter to a Man, mise en scène Robert Wilson, du 15 décembre au 21 janvier, au Théâtre de la Ville, espace Pierre Cardin. Mikhail Baryshnikov, mais c'est pas dans ceux de Nijinsky. Inspiré de son légendaire journal, le spectacle nous livre le témoignage bouleversant du célèbre danseur et chorégraphe des ballets russes, en train de sombrer dans la folie. Seul en scène, Baryshnikov excelle de grâce, un hommage d'une élégance rare. Letter to a Man, un spectacle France Inter. À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
C'est le moment de vous offrir notre cadeau de Noël, puisque toute cette semaine, je vous offre la boîte de jeu de la Tête au Carré qui vient de sortir aux éditions Marabout avec 500 questions pour retrouver les thèmes abordés dans l'émission. Pour gagner cette boîte, c'est très simple, il vous suffit de répondre à la question que je vais vous poser et de donner votre réponse. Vous pouvez déjà préparer votre mail en nous écrivant à latèteaucarré@radiofrance.com. Ce sont aujourd'hui les deux premières bonnes réponses qui arriveront sur la boîte mail de l'émission qui remporteront justement notre boîte. Voici donc la question aujourd'hui. Comment appelle-t-on le trouble alimentaire qui consiste à se focaliser de façon obsessionnelle sur le fait de manger sainement ? Comment appelle-t-on ce trouble alimentaire qui consiste à se focaliser de façon obsessionnelle sur le fait de manger sainement ? Votre réponse dès maintenant par mail. Le nom des deux gagnants sera donné dans quelques minutes sur le site de la Tête au Carré. Merci à Guillaume Roux et Julien Michel qui étaient à la technique. Il est 15h.